DW. Droits et libertés.
On aurait pu cette semaine revenir sur la plainte déposée par la République démocratique du Congo contre le géant de la tech Apple. La RDC lui reproche d'utiliser des minerais de sang blanchis dans sa chaîne d'approvisionnement. On aurait pu aussi parler des droits des femmes, toujours bafoués dans la plupart des endroits du monde, de l'avenir incertain de la Syrie, des enfants qui ne peuvent pas être soignés à Mayotte après le cyclone Chido, des prisonniers politiques dans le monde, de la peine de mort, des guerres ou de n'importe quelle autre violation des droits humains, de répression, d'entrave aux libertés individuelles, mais avouez que c'est pas très réjouissant pour une fin d'année. Alors, pour une fois, on va invoquer le droit au savoir et plonger dans un passé lointain qui nous ramène au début de l'humanité sur le continent africain, bien sûr. Et vous le verrez, il y a aussi un lien avec la déconstruction des préjugés. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. L'humanité a-t-elle pris naissance ? En Afrique, bien sûr. Les scientifiques sont unanimes là-dessus. Oui, mais où ? Et comment le continent africain a-t-il contribué à l'évolution de l'Homo sapiens, notre ancêtre direct ? Ces questions sont au cœur d'une exposition gratuite qui est montrée à Berlin jusqu'à la fin avril sous le titre « Planet Africa ». Ou Planète Afrique, si vous préférez, mais je suis pas sûre qu'il ait été très utile de traduire. Allez, venez, on va y faire un tour. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que l'homme moderne, avec un grand H, attention, on parle bien ici d'humain, que l'homme moderne, donc, avait vécu il y a 200 000 ans environ, en Afrique de l'Est, considéré comme le berceau de l'humanité. Pourtant, de toutes nouvelles méthodes informatiques ont permis d'analyser autrement les restes fossiles retrouvés dans le nord de l'Afrique et de dater ces restes humains que des archéologues ont trouvés dans la grotte de Djebel Irhoud au Maroc. Un crâne d'abord, qui ressemble à s'y méprendre au crâne de l'homme moderne, alors que ce crâne-là, lui, est bien plus vieux puisqu'il a entre 300 000 et 350 000 ans. Cette découverte, faite en 2017, a permis de réfuter l'idée que l'humanité avait rapidement vu le jour dans un jardin d'Éden, quelque part en Afrique. C'est ce qu'a déclaré Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive de Leipzig, en Allemagne. Au contraire, ce crâne a montré que l'humanité s'était développée progressivement et dans une zone géographique vaste, le continent africain. Et c'est ce continent donc qui est mis à l'honneur dans l'exposition Planet Africa, visible à Berlin jusqu'à la fin avril 2025 à la James Simon Gallery, avant de partir en itinérance dans d'autres villes d'Allemagne. Elle montre les tissus sociaux complexes de relations familiales, des modes de vie variés qui se sont développés dans toute l'Afrique. Sur le site internet de l'exposition, on peut lire que l'objectif des concepteurs était d'éclairer plus de 2 millions d'années d'histoire de l'humanité grâce aux travaux de recherche cumulés des deux derniers siècles. Wazi Apo enseigne l'archéologie au Ghana. Il est co-curateur de l'exposition.
I started by saying that 5 million years of Africa's history cannot be packed into any boxes. No.
J'ai commencé par dire que 5 millions d'années d'histoire africaine ne peuvent être rangées dans aucune boîte. L'histoire de l'Afrique peut être résumée sur une page, voire une demi-page, c'est possible. Mais nous pouvons aussi écrire 1 million de livres sur l'Afrique. Ce n'est qu'une façon symbolique de présenter l'Afrique.
Symbolic way of presenting Africa.
Pour Wazi Apo, cette exposition permet de raconter simplement une histoire qui dément de nombreuses contre-vérités répandues sur les cultures africaines. Au départ de l'exposition, il y a la volonté des scientifiques allemands de présenter les résultats de leurs recherches dans le cadre du programme intitulé « L'Afrique enchevêtrée, Entangled Africa ». Jörg Lindstetter de la Commission pour l'archéologie des cultures extra-européennes de l'Institut archéologique allemand dirige l'équipe des conservateurs.
Il existe beaucoup de projets, de programmes et d'expositions sur l'Afrique. C'est pourquoi nous avons pensé que nous devions nous faire remarquer quelque part de manière un peu provocante avec ce titre. C'est pourquoi nous avons choisi le titre Planète Africa, en partant du principe que l'Afrique est tellement grande et qu'elle possède une telle diversité culturelle qu'elle pourrait à elle seule suffire à une planète entière.
Et cette exposition est aussi montrée en Afrique. Depuis le mois de novembre, on peut la visiter à Rabat, au Maroc, et à Nairobi, au Kenya. Et l'année prochaine, elle ira à Maputo, Accra et Lobamba, en Eswatini.
L'idée de la tournée, c'était bien sûr de la montrer au plus de gens possible, d'où cette exposition itinérante. Mais on a vite réalisé que ce serait difficile techniquement de montrer cette exposition en Afrique, de lui faire traverser les frontières.
L'une des grosses difficultés techniques, c'était d'assurer le transport des objets archéologiques. Alors les conservateurs ont eu l'idée de proposer aussi une forme numérique de l'exposition qui peut facilement être envoyée aux quatre coins du monde. Et puis dans chaque pays, des curateurs locaux ajoutent des objets tirés de leur propre collection nationale pour enrichir l'exposition de départ. Les textes et les contenus multimédia ont été élaborés avec des artistes africains qui ont travaillé aux illustrations et aux vidéos des différents secteurs de l'exposition. Par exemple, la partie consacrée au berceau de l'humanité a été élaborée en collaboration avec un collectif d'artistes kényans, les Maasai Mbili. Mais l'exposition s'intéresse aussi à des chapitres plus récents et plus douloureux de l'histoire.
L'archéologie est une discipline coloniale. Une partie du Ghana a été colonisée par l'Allemagne et la Côte d'Or a été colonisée par les Britanniques. Le Royaume-Uni contrôlait l'ensemble du Ghana au moment où le pays a accédé à l'indépendance. Et le travail archéologique a commencé à l'époque coloniale.
The practice of archaeology started.
Wasi Apo a lui-même travaillé à des recherches interdisciplinaires sur les missionnaires allemands et la colonisation du Togoland, qui correspond au Togo actuel, plus une partie de l'actuelle région de la Volta, au Ghana. Il travaille à l'Université du Ghana pour le projet Volta German Shared Colonial Heritage Project. C'est un projet qui, comme son nom l'indique, montre l'entrecroisement de l'héritage historique colonial. L'Institut allemand d'archéologie essaie grâce à ce projet de mettre en place un réseau de chercheurs qui travaillent sur l'histoire de la colonie allemande du Togoland, donc pour la documenter, pour mieux la connaître et puis sauvegarder les connaissances à son sujet. Les anciens lieux de l'oppression coloniale sont censés être connus par exemple en lieu de souvenirs, mais aussi d'éducation à destination de la population locale et des étrangers de passage. Mais Wasi Apo souligne un autre aspect primordial à ses yeux pour notre époque contemporaine, c'est comprendre comment les humains de la préhistoire ont réussi à s'adapter au changement climatique. Un projet de la Société allemande de recherche s'est penché sur l'analyse de sédiments en provenance du bassin de Tchobahir dans le sud de l'Éthiopie. Autrefois, il y avait là un lac immense et aujourd'hui c'est un désert de sel aride. Les scientifiques ont pu montrer que la région a été touchée par des variations dramatiques des précipitations. Elle était habitée par des chasseurs et des cueilleurs qui ont dû s'adapter aux conditions climatiques changeantes. Et les chercheurs pensent que ces comportements qui ont dû être modifiés au fil des âges et des aléas météorologiques ont concouru à l'évolution de l'anatomie de l'homme moderne. Et puis, Wasi Apo soumet aussi à ses contemporains des questions de fond soulevées par ses travaux de préhistoriens.
Qu'avons-nous humains tous en commun? Quelles sont nos différences? Comment notre environnement peut-il jouer un rôle dans la diversification de notre espèce? Comment nous sommes-nous chacun, chacune adaptés aux zones géographiques dans lesquelles nous vivons aujourd'hui? Quelles sont nos limites? Pourquoi cette tendance de l'humain au racisme?
Peut-être que vous vous en souvenez, mais il y a quelques années, nous avions reçu une autre préhistorienne française, elle, Marilène Patou-Matisse, qui se pose aussi ce genre de questions. Spécialiste de l'homme de Néandertal, elle s'est demandé comment les humains avaient fini par établir des hiérarchies entre eux et d'abord entre les sexes.
Je pense qu'il faut justement amener à faire comprendre qu'il n'y a pas de justification à inférioriser une femme et à la subordonner. Il n'y a pas. Et surtout en faisant ce travail sur le passé lointain, en montrant que probablement dans plein de sociétés, le patriarcat n'existait pas. Donc ça veut dire qu'il n'est pas originel, qu'il n'est pas intrinsèque, qu'on n'est pas fait programmé pour faire telle et telle et telle autre, à part la reproduction. Donc je pense que ça peut apporter, puisque si c'est culturel, si ça a été amené comme ça au cours de l'histoire, on peut changer. C'est pas écrit dans le marbre, quoi.
C'est une option, un moment de l'histoire, un choix. C'est une réflexion qu'on peut d'ailleurs étendre à d'autres domaines, évidemment, comme le racisme.
Bien sûr. Mais vous savez, c'est un processus qui est le même. L'infériorisation, ça peut être l'infériorisation, bien entendu, en fonction des religions, en fonction des couleurs, mais aussi en fonction du sexe. C'est le même processus. C'est toujours de vouloir catégoriser et en plus et surtout, et c'est là le drame, hiérarchiser.
Oui.
Moi, vous savez, la différence, c'est, moi je suis contente que j'ai une grande diversité, moi j'ai beaucoup voyagé, donc si vous voulez, c'est passionnant, cette diversité, et tant mieux. Mais je dis, c'est différent, point, on met le point, c'est tout, pas de savoir plus, moins, meilleur, moins bon. Et c'est ça le drame, c'est la hiérarchisation. Et je pense que si on arrêtait de vouloir hiérarchiser, à mon avis, toute l'humanité s'en porterait mieux.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Silke Wünsch, Suzanne Quartz et Elisabeth Grenier. Bonne fête de fin d'année à tous. Si vous souhaitez réécouter ou podcaster ce magazine, rendez-vous sur la plateforme de réécoute de votre choix ou sur notre site internet www.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.